Haïti, bonjour Michael.
Bonjour Joanne, il est 9h10 à Surfside. Cette station balnéaire de Floride aux États-Unis meurtrie 30 heures après l'effondrement d'un immeuble. Les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver des survivants. Le Canada, forcé de regarder dans son passé, d'assumer des centaines de tombes d'enfants autochtones mises au jour dans des pensionnats religieux. Le féminisme et ses manifestations sous toutes ses formes artistiques, c'est un livre et c'est notre dossier du jour. Et puis dans une quinzaine de minutes, bien sûr, comme chaque jour, on retrouvera Benoît Ferrand pour le journal de la première. Il y a du nouveau dans le ciel des Antilles. Bienvenue à tous.
It was just horrific. The first thoughts that came to mind were the images of
terrible, comme les images du 11 septembre, raconte ce témoin sur CNN, qui a assisté à l'effondrement de cet immeuble, donc en Floride, à Surfside, tout près de Miami, dans la nuit de mercredi à jeudi. Depuis, les secours tentent de retrouver les 159 personnes dont on est sans nouvelles, chiffres que vient de donner la mairie lors d'une conférence de presse. Ce matin, 4 personnes officiellement sont mortes. Le président Biden a déclaré la situation d'urgence qui permet de mobiliser les agences fédérales. Bonjour Camille Marigot.
Bonjour.
Les images du désastre s'étalent aujourd'hui dans tous les journaux.
Le déchirement à la une du Miami Herald, 12 étages, 55 appartements du complexe Champlain Tower South qui se sont volatilisés en 30 secondes. C'est le calcul du Washington Post qui a compilé des images d'avant, pendant et après la tragédie.
They're all missing. That only God is the one who saved them. So you never lose hope.
Et cette femme venue devant les décombres qui raconte toujours sur CNN que tous ses proches qui habitaient la tour ont disparu, mais qu'elle ne perd pas espoir. Camille, la tragédie trouve un écho bien au-delà des frontières américaines.
Argentins, colombiens, cubains, chiliens, portoricains, de nombreux portés disparus sont latino-américains dans cette région qui sert justement de lien entre les États-Unis et l'Amérique latine, estime le Miami Herald. Clarine décrit l'endroit du drame. Le nuage de poussière a été dispersé par le vent marin et la pluie, ajoutant à la scène d'horreur. Miami, d'ordinaire ensoleillé, définitivement en deuil. Le quotidien argentin évoque les 9 ressortissants de la nation Albi Celeste. Parmi les disparus, cet immeuble de Surfside se trouve en fait près d'une zone surnommée la Petite Buenos Aires, explique La Nation. De nombreux Argentins y sont venus après la crise de 2001 et plus récemment pour se faire vacciner ou échapper à la pandémie.
This is an international community. We are the gateway of Latin America. This community in particular has, you know, so
là, c'est Debbie Wasserman Schultz, la représentante démocrate de Floride, que l'on entend expliquer que cet immeuble a en effet rassemblé, comme vous le disiez Camille, de très nombreuses communautés, des Israéliens aussi et donc beaucoup de Latinos. Nous travaillons, explique l'élu, pour que les visas soient traités rapidement afin que les membres de leur famille puissent venir ici. Voilà ce que l'on pouvait dire à cette heure donc de l'effondrement de cet immeuble en Floride qui, je le rappelle, a fait officiellement 4 décès et plus de 150 disparus encore. On reste aux États-Unis. Camille, où Derek Chauvin, reconnu coupable de la mort de George Floyd, attend de connaître sa peine. Il sera fixé maintenant dans quelques heures.
Oui, le verdict sera rendu dans un tribunal de Minneapolis. On attend une lourde peine, entre 12 et 30 ans de prison, selon les médias. Le procès de Derek Chauvin, qui s'est achevé il y a 2 mois, a été très suivi en direct et à distance. Une transparence durable qui ouvrirait la voie à davantage de caméras dans les salles d'audience, estime le Star Tribune. Le quotidien rapporte que la Cour suprême du Minnesota envisage de revoir les règles de l'État en ce qui concerne l'enregistrement des procédures pénales. L'occasion peut-être d'un changement radical et attendu, explique une spécialiste de l'éthique des médias interrogée par le journal, car cela a contribué sans aucun doute à la compréhension et à la surveillance du public.
Il est 9h14 à Ottawa. Le Premier ministre Justin Trudeau doit prendre la parole ce vendredi, une conférence de presse consacrée d'abord au Covid, mais comment ne pourrait-il pas évoquer cette nouvelle affaire qui choque le Canada, la découverte de plus de 750 tombes d'enfants autochtones dans un pensionnat de l'ouest du pays. Cela intervient après la découverte, le mois dernier, des corps de 215 écoliers dans un pensionnat de Colombie-Britannique.
C'est une balafre de plus sur la dignité des autochtones, une douleur de plus à encaisser, estime dans Le Devoir Marie-Andrée Chouinard. Son éditorial évoque un voile de honte qui tombe sur le pays. La journaliste estime que les politiciens feraient bien de préserver leur capacité d'indignation et d'émotion, car des histoires comme celle-ci, il y en aura d'autres. C'est aussi ce qu'assure dans The Star le chef de la Première Nation du COSS, Cad Mudelorme, qui a aussi déclaré ceci.
Le monde nous regarde. Désormais, le Canada va être vu comme le pays qui a essayé d'exterminer sa population autochtone. Maintenant, nous avons des preuves. Des preuves dont les survivants des pensionnats autochtones nous parlaient depuis des décennies. Ils ont raconté avoir été traités sans humanité. Ils ont été maltraités, torturés.
Des propos recueillis par notre correspondante Pascale Guéricola. Camille, terminons ensemble par un mot d'Haïti. Le Covid à la une, le gouvernement autorise le secteur privé pharmaceutique à emporter les vaccins contre le Covid. Pour la presse, c'est un constat d'échec de la part des autorités en la matière.
Oui, des autorités incapables de débuter la campagne vaccinale de la campagne nationale de vaccination, titre le Nouvelliste, qui rappelle qu'Haïti est le seul pays des Caraïbes n'ayant toujours vacciné aucun de ses habitants. Un système de santé incapable de soigner sa population, y compris l'ancien président Jean-Bertrand Aristide, transporté hier vers Cuba. Le leader de famille Lavalas est en quête de soins appropriés, selon le National, qui parle d'une contamination au Covid-19, même si son entourage a préféré balayer les rumeurs à ce sujet, estime le site Réseau Nord-Ouest.
Camille Marigot, merci.
Radio France Internationale.
On marque une pause avec l'actualité, on prend un peu de recul. Un cri féministe qui nous ramène au Chili. C'était il y a 2 ans, une performance du collectif La Tesis, devenu un phénomène mondial, un chant pour dénoncer les violences sexuelles. L'art, la musique, les poèmes sont une tradition en Amérique latine pour revendiquer, comme le démontre l'historienne Lisselle Quiroz dans l'ouvrage collectif Féminisme et Artivisme dans les Amériques. Elle l'explique à Harim Lipold.
Lisselle Quiroz, bonjour.
Bonjour.
Quand est-ce que les femmes dans les Amériques ont commencé à utiliser l'art pour exprimer leurs revendications politiques ?
L'art est utilisé comme forme de mobilisation depuis l'époque précoloniale, je dirais, parce que ça n'était pas détaché, ça faisait partie de toute la vie des communautés autochtones. Mais de manière politique, plus particulièrement, je pense que dans tous les mouvements anticoloniaux de la période coloniale et puis au moment des indépendances, on sait que toute la question de le tissage, les tenues que devaient porter aussi les révolutionnaires dans les champs aussi, qu'elles transmettent aux enfants dans les communautés. Je pense qu'on ne peut pas distinguer totalement le divertissement de la politique. C'est pas pour rien qu'on est connu quand même parce que par nos musiques, nos formes musicales très diverses, qui de l'extérieur sont vues un peu comme folkloriques divertissantes, mais en réalité il y a un potentiel politique interne dans toutes les musiques, que ce soit la salsa jusqu'à la samba, ou en passant par le huayno péruvien ou la samacueca. Enfin, il y a des formes, et les femmes elles sont présentes, toujours.
Dans votre ouvrage, et c'est ça que je trouvais vraiment très intéressant, vous mettez l'accent sur le militantisme artistique des femmes issues des minorités. C'est un féminisme qui se distingue, selon vous, du mouvement féministe, on va dire, blanc. En quoi il est différent ?
Au 19e siècle, en fait, les femmes de la bourgeoisie se rendent compte qu'elles sont dans un système de domination masculine, avec le père ou le mari qui domine. Et elles vont avoir quelques possibilités, parce qu'elles ont du capital économique et un capital culturel, de pouvoir progressivement s'émanciper, demander des droits civils, de droit à l'héritage, le droit au divorce, le droit à garder leurs enfants, parce que au 19e siècle, ou à vivre seul, le droit de vote. Dans la seconde moitié du 20e siècle, il y a des femmes autochtones, des femmes des afro-latinas, enfin des afro-descendants, qui ne se reconnaissent pas dans ces revendications. Bah, d'une part, parce que par exemple, si on se dit la question de la propriété, les femmes bourgeoises militent pour disposer de leurs biens, mais des descendantes d'esclaves n'ont rien, ne possèdent absolument rien, même la maison dans laquelle elles vivent peuvent vivre, puisque ce sont par exemple des vivent dans des favelas. Et donc ça, c'est pas des droits qui ou des revendications qui leur parlent. En revanche, elles souhaitent, les autochtones, les femmes d'origine africaine, souhaitent tout simplement avoir les droits de base, donc le droit de vivre dignement, le droit d'avoir un logement, le droit de pouvoir donner naissance à leurs enfants, parce qu'il y a eu beaucoup de politiques dans tout le continent, dans tout le XXe siècle, du Canada jusqu'à la Patagonie, de contraintes pour que les femmes aient moins d'enfants, et donc des stérilisations qui ont été très contraintes, forcées aussi, par exemple dans le cas du Guatemala, du Pérou, du Canada. Donc elles, ce qu'elles demandent, c'est d'autres droits, enfin des droits, tout simplement des droits humains, d'être considérées comme des personnes, des humaines à part entière. Et ça, c'est pas les mêmes revendications que le féminisme blanc.
Ce qui est intéressant, ce que j'ai appris en lisant votre ouvrage, c'est que les revendications de ces femmes issues des minorités sont souvent d'ordre sexuel. Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est que les colons, en fait, ils ont imposé, écrivez-vous, un ordre sexuel qui était binaire, caractérisé par la domination masculine. Et avant, en fait, dans les Amériques, en Amérique latine en tout cas, il existait en fait de nombreuses formes de sexualité, une pluralité sexuelle, mais qui a disparu et que certaines femmes aujourd'hui commencent à revendiquer à nouveau.
Absolument. En fait, on a des preuves que avant la colonisation, donc avant 1492, il n'y avait pas ce binarisme sexuel qu'on a aujourd'hui, disons, du masculin et du féminin et de l'homme et la femme, mais qu'il y avait des formes pluriel plus large, c'est-à-dire des personnes qui pouvaient se trouver entre ces deux modèles qui visiblement existaient, mais qui n'étaient pas fixés de manière autoritaire. C'est soit on est homme, soit on est femme. On pouvait être un peu fluctuant. Ça ressemble à ce qu'on a en Europe et aux États-Unis, en Occident, on appelle le mouvement queer. Or, ces formes-là, et c'est d'ailleurs une critique aussi des féministes queer de couleur des États-Unis ou des Amériques latines, de dire bon bah là nous en fait ça c'est quelque chose qui existait chez nous avant, auparavant, donc, et on a encore des communautés comme celle des Mujeres au Mexique qui qu'on appelle de troisième genre, hein, ces groupes Mujeres qui sont des hommes qui s'habillent ou qui ont une expression de genre féminine et qui sont tout à fait admis dans la société.
L'art est donc au cœur de cette mobilisation. J'imagine c'est un exécutoire, mais aussi un moyen tout simplement pour se faire entendre.
Oui, l'art est une forme un petit peu moins exposée. Elles seront toujours exposées, mais un petit peu moins que de sortir avec les banderoles, enfin, la manifestation classique où la police va venir et les bloquer. Je pense encore aux batucadas parce que elles s'expriment, elles prennent la rue, elles font du bruit. Mais comme c'est aussi artistique, la réponse policière et de la violence, elle est un petit peu atténuée.
Est-ce que l'activisme de ces dernières années a eu un impact dans la société?
Ah, je pense que l'activisme fait bouger les lignes de différents aspects. D'une part, parce qu'il mobilise plus de femmes. Les jeunes femmes sont intégrées, elles vont davantage vers ces formes-là. Ensuite, parce que à partir de là, le public, il est plus large. À travers ces formes-là, en fait, n'importe quelle personne non initiée aux questions féministes, à la théorie féministe, il peut voir cette performance, il peut voir un tableau, elle peut comprendre un tissage. C'est plus accessible en réalité. Une chanson, elle est plus accessible qu'un texte de 50 pages théorique. Donc en fait, il l'élargit et donc il fait bouger les lignes, je pense, dans les familles, dans les quartiers, dans les communautés. C'est un outil extrêmement puissant de mobilisation et de changement social.
Merci beaucoup, Leslie Quiros, Féminisme et activisme dans les Amériques. C'est une publication de l'Université de Rouen et du Havre.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
Et avant de retrouver nos confrères de la première, c'est une nouvelle fois sur RFI que je vous présente celle que vous entendrez chaque week-end dans Causer Kilti, qui fait son retour sur l'antenne. Bonjour Ritzamarom Zetren.
Bonjour Michael.
Alors on vous retrouve à partir de demain sur l'antenne de RFI, en tout cas pour tous nos auditeurs qui nous écoutent en Haïti, pour la reprise de ce rendez-vous Cause Kilti. Expliquez-nous, Rizamarom, qu'est-ce que l'on va retrouver donc chaque week-end avec vous sur l'antenne de RFI?
Cause Kilti, c'est un magazine qui présente l'actualité culturelle de la semaine en Haïti sous un angle plutôt positif. Il s'agit pour nous de mettre en valeur la richesse et la vitalité qui caractérisent la culture haïtienne. Donc, à travers ce programme, nous allons avoir plusieurs séquences. Donc, on aura une revue de presse culturelle de la semaine. Puis, nous aurons également un invité en fonction le plus souvent de l'actualité. Nous aurons également une séquence qu'on a intitulée « La culture au féminin ». Il s'agit pour nous de présenter une femme dans le secteur culturel en Haïti, mais qui fait bouger la culture. Et puis, je ne dois pas oublier également que l'émission met surtout l'emphase sur une sorte de bilinguisme équilibré entre le créole et le français.
Ça veut dire que nos auditeurs vous entendront, en tout cas, dans les deux langues qui seront mélangées dans le programme, c'est ça?
Exactement, exactement. On fera en sorte qu'il y aura 50-50, 50% créole, 50% français dans l'émission.
Un programme, en tout cas, très riche et alléchant. Est-ce qu'on peut avoir un avant-goût, déjà, de ce que les auditeurs pourront entendre demain dans ce premier numéro ou pas?
Eh ben, pour le premier numéro, nous recevrons Erol Josué, c'est un artiste total. Il vient de sortir le 28 mai dernier son deuxième album Pèlerinage. Puis nous allons présenter une femme extraordinaire de la culture haïtienne, surtout dans le domaine des arts. Il s'agit de Mireille Pérodin-Jérôme pour ce week-end. Donc la première diffusion, c'est pour ce samedi à 3h30, heure d'Haïti.
15h30,
exactement. Et puis en dimanche, il y aura deux autres diffusions, soit à 13h10 et à 20h30.
Tout ça en heure locale, hein, bien sûr, heure haïtienne. Pour tous nos auditeurs, eh bien merci beaucoup, Rizamarom Zetren. Bienvenue sur l'antenne de RFI. On a hâte de vous écouter donc chaque week-end dans Cause Kilti.
Le journal de l'Outre-mer.
Et la parole est à Benoît Ferrand. Bientôt une nouvelle compagnie aérienne dans le ciel des Antilles françaises, Benoît.
Oui, elle s'appelle Sky High Aviation, I-H-I-G-H-O. Elle est une compagnie qui reliera dans quelques jours la République dominicaine à la Martinique et à la Guadeloupe. Franck Aristide.
Les dimanches, mardis et vendredis, 3 vols par semaine depuis la Guadeloupe. Les lundis et jeudis, 2 vols hebdomadaires depuis la Martinique. Première rotation prévue le 4 juillet. La Sky High Aviation est une compagnie dominicaine basée à l'aéroport de la capitale Saint-Domingue. Elle existe depuis 2012 et vient donc de rajouter les Antilles françaises à son panel de destinations. Jusqu'à maintenant, elle desservait déjà 8 pays de la Caraïbe. Aruba, Curaçao, Bonaire, Tortola, Anguilles, Saint-Kitts, Antigua et Saint-Martin. Pour effectuer ces vols, elle dispose d'une flotte de 3 Embraer 145, le biréacteur brésilien, d'une capacité de 50 places et d'une autonomie de 2500 km est l'un des avions les plus utilisés dans le monde pour les trajets régionaux. Sky High annonce des tarifs oscillant entre 350 et 400 euros. En s'alignant sur les tarmacs des aéroports Paul Caraïbe et Aimé Césaire, la compagnie dominicaine se retrouvera sur un créneau déjà très concurrentiel, occupé par Air Antilles, Air Caraïbes et parfois par Air France sur les périodes de vacances.
Direction maintenant la Martinique avec une autre grande première, un binôme candidat ce matin à la fonction de bâtonnier du barreau de Fort-de-France. Explication Claude Gracien.
Pour la première fois dans l'histoire du barreau de Martinique, un binôme sera candidat à cette élection et affrontera une avocate qu'elle se présentera seule sur son nom. Ce sont tous des figures du barreau de Fort-de-France. Le binôme est constitué des avocats Maître Germani et Saint-Aimé. Ils se retrouvent face à Pascaline Jean-Joseph. Cette solution du duo est en vigueur depuis quelque temps, depuis que les avocats sont montés au créneau pour expliquer que la tâche de bâtonnier était très prenante et qu'il fallait laisser la possibilité aux robes noires de présenter des tickets aux élections. Au cas où un duo serait élu à la tête du bâtonnat, il est prévu qu'il y ait un bâtonnier en titre et un vice-bâtonnier. Les 214 avocats du barreau de Fort-de-France se déterminent dans la matinée.
Bon après-midi, bon week-end, Michael. À lundi.
Merci beaucoup, Benoît Ferrand, à vous et aux équipes de La Première pour cette concision aujourd'hui. Désolé pour le petit temps qu'on vous a grignoté. Ainsi se termine cette semaine du rendez-vous d'Haïti des Amériques. À retrouver bien sûr sur RFI Pure Radio. Très bon week-end à tous. N'oubliez pas Causez Kilti si vous nous écoutez, depuis Haïti. Et je vous dis à lundi.